VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h, temps universel, bienvenue à notre journal. L'Afrique va bénéficier d'un investissement japonais de 30 milliards de dollars sur les trois prochaines années, dont 10 milliards dans le développement des infrastructures. Shinzo Abe, premier ministre du Japon, l'a annoncé à la 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, qui vient d'avoir lieu à Nairobi, au Kenya. Un sommet de deux jours auquel ont participé une trentaine de chefs d'État africains. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint l'économiste Amadou Cissé du groupe de la Banque mondiale.
Une très grande importance, surtout à cause du grand retard sur les infrastructures, au titre des infrastructures en Afrique, notamment sur le plan de l'énergie, sur le plan de la maîtrise de l'eau et puis sur le plan routier. Ça revêt une très grande importance dans la mesure où le développement des infrastructures est une des préconditions du développement économique. Si cela se traduit concrètement, oui, ça va améliorer les conditions de vie matérielle des populations, ça va améliorer le fonctionnement des États, ça va donner un impetus aux économies africaines.
Les échanges commerciaux entre le Japon et l'Afrique s'élevaient à 24 milliards de dollars l'an dernier, bien moins que les 179 milliards de dollars de la Chine. Ce nouvel engagement du Japon est-il un moyen pour Tokyo de consolider sa position sur le marché africain face à l'offre chinoise notamment?
Cela est un signal positif. Cependant, comme vous l'avez dit, c'est bien loin derrière les montants de la Chine qui sont très très importants. Mais cela étant dit, ça va dans la même direction. Disons, la part de l'Afrique dans le commerce mondial reste très faible. Cet engagement du Japon va dans la bonne direction. Il est difficile de dire autre chose que de noter son côté positif parce que le développement des échanges, c'est quelque chose qui est très très favorable au développement économique. Et le Japon aussi représente un symbole. C'est le pays qui a mis en motion l'ère Meiji, les transformations du Japon pour rattraper son retard par rapport à l'Occident. Il l'a rattrapé et il est un des géants économiques mondiaux aujourd'hui. Donc, développer les échanges avec l'Afrique entraîne aussi ce gain symbolique.
Certains diraient que c'est un peu la ruée vers l'Afrique, la Chine, les États-Unis, l'Europe et maintenant le Japon. Cela ne peut qu'être une bonne chose pour l'Afrique, n'est-ce pas?
Absolument. Et de manière générale, l'Afrique s'inscrit vraiment dans le carnet de visite de tous les pays développés dans la mesure où c'est l'une des dernières frontières de grandes réserves naturelles, minières et autres dans le monde. Et sans conteste, la compétition économique se jouera beaucoup en Afrique ces prochaines années.
L'économiste Amadou Cissé à Washington, ici aux États-Unis. Parmi les leaders africains présents à Nairobi, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari. Pendant son séjour au Kenya, le chef de l'État a relancé les efforts en vue d'obtenir la remise en liberté des otages de Chibok, les écolières kidnappées dans le nord-est du Nigeria par le groupe islamiste Boko Haram. Plus de détails avec Chérubin Dorsil.
Dans une déclaration à la presse hier dimanche, le président Muhammadu Buhari s'est dit prêt à laisser Boko Haram choisir un organisme sans but lucratif comme intermédiaire dans toutes les discussions sur la libération d'environ 200 écolières enlevées en 2014 dans le nord-est du Nigeria. Monsieur Buhari avait déjà fait une offre de négociation sur le dossier l'an dernier, mais le groupe extrémiste n'a pas fait de commentaire sur la proposition. L'échec du Nigeria dans la recherche des filles de Chibok a provoqué un tollé au pays et à l'étranger. Souvenez-vous, les critiques du prédécesseur de Buhari, Goodluck Jonathan, avaient déclaré que son gouvernement était trop lent à agir. S'ils ne veulent pas nous parler directement, qu'ils choisissent une ONG reconnue internationalement, a dit le président Buhari en marge d'une conférence au Kenya. Selon le dirigeant nigérian, des négociations pourraient commencer sur un échange de prisonniers si Boko Haram pouvait fournir des preuves à l'ONG que les filles sont toujours sous son contrôle.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Présidentielle de samedi au Gabon, le processus électoral a manqué de transparence, a déclaré aujourd'hui à Libreville l'eurodéputé bulgare Maria Gabriel, chef de la mission des 73 observateurs de l'Union européenne. Selon Mme Gabriel, la mission européenne déplore le manque de transparence des organes de gestion des élections qui ont omis de mettre à la disposition des parties prenantes des informations essentielles, telles que la liste électorale et la liste des centres de vote. Par ailleurs, attente et inquiétude ce lundi à la veille de la proclamation des résultats officiels du scrutin. Les deux candidats les plus en vue, à savoir le président sortant Ali Bongo Ondimba et son principal rival, l'opposant Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine, cherchent à rassurer la population. Le point avec notre envoyé spécial sur place, Idriss Fall.
Le ministre de l'Intérieur a déjà annoncé que les résultats seraient annoncés mardi, c'est-à-dire 72 heures après le scrutin, comme le demande la loi électorale. Hier, l'opposant Jean Ping, devant ses militants, a déjà clamé une victoire et a essayé de rassurer ceux qui n'ont pas voté pour lui pour dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Et immédiatement après, le président sortant aussi a rassemblé ses militants non loin de la maison de Jean Ping pour les appeler au calme et assurer que lui, il est confiant et tout le monde attend les résultats. C'est la CEDAP qui doit d'abord les proclamer ce lundi au plus tard pour les transmettre au ministère de l'Intérieur. Beaucoup d'observateurs s'attendent à des révoltes si le verdict des urnes n'est pas respecté. Depuis Libreville, Idriss Fall, La Voix de l'Amérique.
Dialogue politique en RDC. Malgré les bons offices des évêques nationaux, le rassemblement de l'opposition maintient son boycott des assises qui débutent le 1er septembre. Joseph Olengakoy, membre du conseil des sages de cette plateforme que dirige Étienne Tshisekedi, leader de l'UDPS, l'a rappelé ce lundi après les consultations entre une délégation du Rassemblement et la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. Monsieur Olengakoy est au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les Congolais pensent que toujours notre bonheur viendra d'ailleurs. Mais cette fois-ci, nous allons prouver au monde que le bonheur du Congo viendra du sol congolais et par les Congolais
c'est
eux-mêmes.
Quoi concrètement, monsieur Lengakoy?
Concrètement, nous allons nous assumer et nous allons montrer au monde que nous sommes un peuple éveillé et qui connaît la direction de notre pays.
Jeudi, vous allez au dialogue.
Le rassemblement n'est pas engagé dans ça, ce n'est même pas un dialogue. C'est un forum Kondjo Kabila et avec tous les agglomérats de James Kabahare et puis avec les caméras là-dedans.
Joseph Olengakoy, membre du Conseil des sages de la plateforme de l'opposition de la RDC. En Libye, un millier de combattants des forces du gouvernement d'Union nationale GNA encerclent les dernières poches de résistance des militants du groupe État islamique à Sirte et progressent dans leurs attaques pour les neutraliser. Les djihadistes sont désormais acculés dans un secteur de moins de 2 km² dans cette ville qui était auparavant leur bastion en Libye, ont affirmé ce lundi les forces du GNA. Et puis, carnage au Yémen. Un attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique a fait aujourd'hui 71 morts à Aden, dans le sud du pays. Le kamikaze a visé des jeunes recrues de l'armée yéménite enrôlées par le gouvernement en exil en Arabie Saoudite. Bagassi Koura.
L'explosion s'est produite dans la cour de l'école Sanafir du quartier Muammar Kadhafi, du nom de l'ancien dirigeant libyen. Le kamikaze a profité de l'entrée d'une camionnette de livraison pour lancer son véhicule contre les recrues rassemblées dans la cour. Selon un responsable de sécurité cité par l'AFP, la déflagration a provoqué l'effondrement du toit d'une salle de classe sur de nombreuses recrues. L'agence AMAC, organe de propagande du groupe djihadiste, a vite revendiqué l'attaque. Cet attentat, qui intervient sur fond de blocage du processus de paix entre rebelles et gouvernement, est le plus sanglant à endeuiller la ville d'Aden, déclarée capitale provisoire du Yémen depuis son retour dans le giron du gouvernement en juillet 2015. Ceci illustre les difficultés qu'ont les autorités à rétablir l'ordre à Aden en dépit des diverses mesures et de nombreux plans pour sécuriser la ville. Pour résoudre le conflit, le secrétaire d'État américain John Kerry a proposé jeudi dernier la formation d'un gouvernement d'union nationale.
Et au Bangladesh, John Kerry a affirmé aujourd'hui à Dhaka qu'il existait des preuves d'un lien entre les auteurs des récents attentats sanglants dans le pays et le groupe État islamique, contrairement à ce qu'avancent les autorités bangladaises. John Kerry a répété que les États-Unis étaient des alliés de Dhaka dans sa lutte contre les islamistes armés et aussi les questions de sécurité et de coopération dans le renseignement qui ont dominé la journée de visite du secrétaire d'État. Mais le chef de la diplomatie américaine a également souligné l'importance de la défense de la démocratie dans la lutte contre le terrorisme. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.